Bonjour et bienvenue dans Okapi Service Petit Commerce en RDC. Que changent les nouvelles mesures du gouvernement? C'est les sujets que nous abordons aujourd'hui dans ce magazine avec Lems Kamoigna, économiste et analyste. Bonjour Monsieur Kamoigna et merci d'avoir accepté notre invitation. Lems Kamoigna intervient en ligne pour participer à cette émission. Chers auditeurs, joignez-nous au 085 42 11 547 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook au Capi Service. Patrick Kassongwa met en onde cette émission. Esther Mamboté assure le live sur nos réseaux sociaux. Benjamin Moudoumbi est à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussaoupondé. Bonne condition d'écoute.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Le gouvernement congolais a annoncé l'entrée en vigueur du décret encadrant le petit commerce et le commerce de détail en République démocratique du Congo. Ce texte réserve certaines activités commerciales aux Congolais, tout en maintenant certains segments spécialisés ouverts aux étrangers, notamment ceux nécessitant d'importants investissements. Les opérateurs concernés disposent toutefois d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Cette décision suscite déjà plusieurs réactions et interrogations dans les milieux économiques et au sein de la population. Qui est réellement concerné par ces nouvelles mesures? Quels commerces sont réservés aux Congolais? Quels impacts sur les commerçants, les consommateurs et l'économie nationale? C'est notre thème dans cette édition d'Okapi Service. Pour en parler, je l'ai dit, nous recevons Lems Kamoigna, économiste et analyste. Monsieur Kamoigna, bonjour et merci d'avoir accepter notre invitation.
Bonjour madame.
Alors Lems Kamoigna, ce décret est présenté comme une nouvelle étape dans l'encadrement du petit commerce. Pourtant, des mesures similaires existent depuis longtemps. Que change réellement ce texte?
Oui, bon, d'abord la première des choses, ce qui change, on a essayé de donner une portée plus large, donc une sécurité juridique assez forte que les mesures initiales. Parce que cette décision, elle est désormais portée par un décret du Premier ministre, ce qui est un texte supérieur par rapport à la loi ou par rapport à certaines circulaires qui avaient été délivrées en son temps par le ministère de l'économie. Et lorsque nous parlons du Premier ministre, donc nous voyons la personne qui engage le gouvernement. Donc c'est une orientation claire du gouvernement.
Lems Kamoigna, est-ce que vous êtes en ligne? On l'entend plus, on l'a perdu. Est-ce qu'il est là? C'est la connexion qui pose problème parce que...
connexion vient d'entrer.
Oui, allez-y.
Je disais, lorsqu'on parle d'un décret qui est pris par le Premier ministre, ça montre que c'est vraiment un engagement du gouvernement, une orientation claire pour arriver à garder un segment de l'économie entre les mains des nationaux. Même si nous sommes un pays avec une économie libéralisée, on ne peut pas permettre que dans tous les secteurs d'activité, même dans les petits commerces, qu'on y trouve des étrangers. C'est-à-dire, nous sommes en train de laisser les contrôles de notre économie aux personnes qui, si demain ou après-demain ferment et partent, cela va amener des déséquilibres économiques importants au sein du pays. Et aussi, quel serait cet avantage d'un Congolais de dire il y a le secteur qui n'est réservé qu'à nous? Même dans toute famille, il y a des endroits où vous ne pouvez pas accéder si vous allez visiter votre ami. Alors, l'extraversion de notre économie, l'ouverture économique, ne signifie pas que on doit laisser les étrangers se retrouver même dans le secteur du petit commerce. Ils peuvent se limiter au niveau de la vente en gros ou la vente en demi-gros. Mais les petits commerces, qu'on laisse ça une initiative pour les Congolais, les natifs, les autochtones, qui doivent avec des petits moyens, essayer de se débrouiller avec des activités génératrices de revenus. Mmh. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La première fois que j'ai visité Dakar, on m'a montré qu'il y avait un quartier qu'on appelait, je sais pas, Congo Zoba, quelque chose comme ça. Mmh. On dit que ce quartier a été construit avec les Sénégalais qui étaient venus dans notre pays et qui vendaient les cabris. Mmh. Ce qu'on appelle les tiges ou bien les, je crois pas,
les brochettes.
Les brochettes. Comment quelqu'un peut quitter son pays, venir commencer à vendre les brochettes dans un pays et s'enrichir et aller construire chez eux? Ça, c'est des privilèges qui sont réservés aux nationaux. Et je sais que dans le secteur des mines, on avait aussi demandé que l'exploitation artisanale des minerais soit réservée aux nationaux. C'est l'endroit où on peut orienter cette catégorie de la population qui n'a pas étudié, mais qui a une possibilité de se rendre utile et de créer une activité génératrice de revenus et lui permettre de survivre, parce que tout le monde ne peut pas travailler, et ça reste un domaine propre aux nationaux. Donc, il faut arriver à les protéger. Pour les protéger, c'est ainsi qu'on a pensé à un décret, qui est un texte de portée supérieure, qui montre vraiment que c'est la volonté du gouvernement, c'est un engagement, pour que les étrangers ne rentrent pas dans ce secteur-là. Et un décret n'est pas facile à casser comme c'est un arrêté pris par un seul ministre ou une circulaire fait par les divisionnaires et donc les secrétaires généraux à l'économie. Donc on a essayé de relever la portée juridique de cette mesure pour annoncer un temps, pour annoncer une volonté de protéger la population congolaise.
Mais quelle différence, comment peut-on définir le petit commerce et quelle différence avec le commerce en détail? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce qu'il y a vraiment dans le fond des différences entre petit commerce et commerce de détail?
Non, je crois que ce qu'on appelle petit commerce, c'est le commerce en détail. Parce qu'en économie, seulement, on regarde les trois segments au niveau de la vente. Il y a la vente en gros, il y a la vente en demi-gros et il y a la vente en détail. Et donc, dans la vente en détail, c'est-à-dire, c'est la vente qui est destinée directement au dernier consommateur, aux ménages, aux personnes qui viennent acheter. Alors, les petits commerces, on pense que les petits commerçants sont ceux-là qui vont s'approvisionner auprès des grossistes ou des demi-grossistes pour venir vendre en détail directement aux ménages ou aux consommateurs finaux.
Mais dans la vente en détail, on peut catégoriser aussi les supermarchés, alors que nous savons que cette activité nécessite quand même de gros investissements. Aujourd'hui, tous les supermarchés sont tenus, pratiquement, presque tous les supermarchés sont tenus par des expatriés. Est-ce que les Congolais sont prêts à se lancer dans de telles activités?
Bon, en termes économiques, les supermarchés, on les appelle comme des grandes surfaces.
Ok.
Ça nécessite des capitaux importants. Et les niveaux des transactions, et les niveaux de ce que, de financement qui est mis en place, il est très important. C'est peut-être là qu'on peut aussi donner cette nuance pour parler du petit commerce. C'est des gens qui engagent de faibles moyens. Parce que pour faire un supermarché, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ailleurs, là, même dans certains pays, bon, si je prends l'Afrique du Sud, les gens qui vous disent, bon, Shoprite, c'est réservé à tout le monde. Mais il y a des malls, là, on s'est dit, pour y aller, c'est une catégorie moyenne de la population, parce que les prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Alors, c'est ça la nuance. Donc, les supermarchés sont des grandes surfaces, c'est des grands investissements qui nécessite de gros moyens. Mais les petits commerces, c'est quelqu'un qui a son $30, $50, qui peut démarrer une activité. Donc c'est vraiment à une échelle assez basse.
Mais si on voit les choses comme ça, est-ce qu'il y a vraiment des étrangers qui sont dans ce petit commerce qui ne nécessite que des petits capitaux, comme vous dites, $30 et $100? Est-ce que on a des statistiques des expatriés qui font vraiment le petit commerce?
Effectivement, il y en a. Effectivement, il y en a, parce que l'exemple typique du petit commerce ici, c'est tout ce que nous voyons, les commerces des rues, ce qu'on appelle les marchés pirates, les gens qui ouvrent des petits kiosques à leur domicile, les gens qui vendent du pain, des choses comme ça. Et vous allez trouver qu'il y a des étrangers qui viennent, ils veulent se comporter comme des Congolais. et ils ouvrent leurs activités pour faire la concurrence aux Congolais. Alors, le comble qui est là, c'est que parfois, eux, ils ont des relais, parce que quand vous montez au secteur de migros ou de gros, vous trouvez que c'est leurs frères qui sont là. Alors, on s'est dit, peut-être, eux, ils peuvent bénéficier de facilités que les Congolais n'ont pas. Alors, devons-nous être sur la rue en train de vendre la même chose avec un Nigérien, un Gabonais ou un autre? Parce que nous sommes vraiment dans le secteur du petit commerce. Pourquoi ne pas nous laisser ça comme privilège? Les statistiques, je crois, c'est au niveau du ministère de l'économie, je ne sais pas si les données sont à jour. Normalement, ils doivent arriver à recenser tous ces gens qui font ces petits commerces et trouver quelle est la part des étrangers qui sont là-dedans. Un autre exemple que nous voyons, on voit un peu les Chinois qui commencent à ouvrir dans toutes les communes des petits magasins là, où ils vendent même en détail. Et les Congolais se plaignent, on s'est dit, mais ça c'est un Chinois qui ouvre les magasins. Pourquoi ne pas nous vendre nous en gros pour que nous puissions aussi les vendre en détail? Je vais acheter l'uniforme pour mon enfant. J'entre dans un magasin des Chinois, je paye ça à 10 000, 15 000, 20 000 francs. Non, mais si les Chinois descendent jusqu'à ce point-là, et nous-mêmes en tant que Congolais, où est-ce qu'on va être? Alors, c'est à ce niveau-là que on commence à constater qu'il y a des abus. Et ceux-là qui devraient peut-être se limiter au niveau du secteur des gros pour laisser l'avantage aux Congolais commencent à descendre même à un niveau assez bas. Ils laissent les grands espaces commerciaux comme les centres commerciaux. Ils sont maintenant dans les communes. Ils ne vendent pas en gros. Et ils commencent à vendre en détail.
Et même quand ils vendent en gros, au grand marché par exemple, on peut acheter certains articles en détail, alors que le prix appliqué, c'est les prix qu'on devrait normalement appliquer pour la vente en gros. Donc du coup, les commerçants, les petits commerçants ne se retrouvent plus.
Ça, c'est un problème de ce qu'on appelle les contrôles économiques. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'économie, parfois on est en train de perdre le sens de ce qu'on appelle contrôle économique. Le contrôle économique, c'est rassurer que celui qui a une identification nationale, qui a un permis d'exploitation, on doit savoir que ton permis d'exploitation te limite à opérer dans les secteurs des gros, ou dans les secteurs des demi-gros, ou dans les secteurs des détails. Vous voyez, la notion de la TVA, elle vient d'où? C'est-à-dire, la TVA provient du fait que lorsque moi j'achète en gros et je dois les vendre en détail, on regarde les différentiels de prix entre les prix du gros et les prix de détail, et l'État facture sur la valeur que j'ai ajoutée. Bon, maintenant, si ce sont les mêmes personnes qui vendent en gros et les mêmes personnes qui vendent en détail, alors là, ça devient compliqué. Ça limite les contrôles, ça fausse la concurrence. Et ça étouffe ceux-là qui font les petits commerces. Et les Congolais qui majoritairement n'ont pas des emplois salariés font les petits commerces, ils se rendent compte que le niveau de concurrence devient de plus en plus important et même impossible pour eux parce qu'ils entrent en concurrence avec les gens qui ont des gros moyens. Alors, ceux-là qui font des magasins, qui commencent à vendre à détail, ils ne commencent pas avec 100 dollars, ils commencent avec des milliers de dollars. Et ils font les marges sur toute la ligne. Alors, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on doit renforcer les contrôles économiques pour dire à certains, tu as ton permis d'exploitation, tu restes dans les secteurs des gros ou des demi-gros tant que tu n'es pas les Congolais. Et tu ne peux pas vendre en détail. Et celui qui vend en détail doit être sanctionné pour qu'on laisse cette marge aux Congolais.
Et il y en a qui sont eux-mêmes importateurs, grossistes, semi-grossistes.
Et détaillants.
Voilà.
C'est-à-dire là, il fausse toutes les règles du jeu. Et le contrôle économique devient difficile. Et les Congolais se retrouvent en train de pleurer parce que sur leurs étalages, sur leurs petits commerces, personne ne peut venir. Ils préfèrent aller là-bas. Et la concurrence devient difficile à supporter.
Alors, l'EMS Kamonia, c'est pas la première fois qu'une telle mesure est prise. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, selon vous, selon vos analyses, pourquoi les précédentes tentatives d'application ont-elles échoué?
Bon, moi, je vais évoquer deux raisons. La première raison, c'est au niveau des mécanismes de contrôle qui sont mis en place. Vous voyez, lorsque vous prenez une mesure économique, c'est comme une loi. Il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup qui veulent opérer à marge de la loi. Mmh. Alors, le gouvernement, avec toutes ses structures, avec toute la puissance publique, doit se rassurer que les lois et les règlements sont respectés. Mmh. C'est pourquoi nous avons tous ces services publics qui sont là pour se rassurer que tout le monde fonctionne en respectant la loi et non pas à marge de la loi. Alors, tous ces services, affaires économiques, contrôle économique, division de l'économie, c'est leur travail de veiller que cette loi soit appliquée. Mmh. Mais à ce niveau-là, on constate qu'il y a une inefficacité. Soit parce que les gens qui sont là ne les font pas convenablement, et aussi une autre raison, nous savons qu'il y a les problèmes de corruption dans notre pays. Mmh. On arrive là, celui qui vient contrôler, on lui donne un rien, il s'en va et il oublie parce que lui, il songe à sa propre poche. Mmh. Alors ça, ce sont là les deux facteurs, l'inefficacité de contrôle et la corruption. Mmh. Alors si on arrive à jouer sur ces deux aspects, à ce moment-là, ces décrets vont avoir une force. Autrement, ceux qui font les petits commerces n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mmh, mais... Donc, une chose, c'est de prendre les décrets, mais d'autre part, c'est veiller que ces décrets sont appliqués, des contrôles soient faits, et que des sanctions et des pénalités soient appliquées à ceux qui violent la loi. Mmh. Alors, à ce niveau-là, il se pose un problème. La moralité des agents et des fonctionnaires de l'État commis au contrôle. L'efficacité des services qui sont déployés sur terrain. Mmh.
Petit commerce en RDC, que changent les nouvelles mesures du gouvernement? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui dans cette émission avec Lems Kamonia, économiste et analyste. Si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, joignez-nous au 085 42 11 547 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Lems Kamonia, je le demandais tantôt pour les grandes surfaces, mais pour d'autres secteurs, est-ce que vous pensez que les Congolais disposent aujourd'hui des moyens suffisants pour occuper des secteurs qui leur sont réservés?
Non, malheureusement pas. Si je vous demande de me citer, ne fût-ce que 5 Congolais ou 10 Congolais qui sont des milliardaires ou qui ont émergé dans le secteur de l'activité économique, on aura du mal. Et à ce moment-là, c'est-à-dire, nous n'avons pas assez de Congolais qui sont investis dans le secteur commercial, qui prennent des grands, qui font des grandes activités commerciales et qui sont considérés comme des spécialistes dans leur secteur d'activité. Mmh. Alors, dans la plupart des pays, on met ce qu'on appelle des dispositifs qu'on appelle crédit à l'économie. Moi, je me rappelle quand Moïse Kabila était entré, il avait dit, non, il n'y a pas de commerçants au Congo, je ne vois pas de magasins, ce que je vois, ce sont des boutiques. Mmh. Parce que l'échelle était assez faible. Maintenant, que fait l'État pour accompagner les Congolais? Que fait l'État pour accompagner ses patriotes, ses autochtones? Ailleurs, il y a ce qu'on appelle le crédit à l'économie. On ouvre des crédits pour accompagner les investisseurs dans certains domaines. Alors, ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. Une tentative avait été faite dans ces pays, c'est avec la création du fonds de promotion de l'industrie. Où on voulait promouvoir l'industrie locale pour diminuer les importations, augmenter de la valeur à nos produits, et les fonds de promotion de l'industrie, même jusqu'à ce jour, ces fonds n'est pas alimenté par les fonds publics, il est alimenté par des prélèvements sur la population, parce que nous payons la taxe au moment des importations. Maintenant, à quoi servent ces fonds? Ces fonds devraient permettre de commencer à financer ceux qui se lancent dans le secteur industriel. En son temps, on avait des banques de crédit agricoles qui ont disparu. Mais quels sont les mécanismes que l'État a mis en place pour financer ceux qui sont dans le secteur commercial? Nous avons la banque, nous avions en son temps la BCC, la Banque Congolaise du Commerce Extérieur. Bon, est-ce que ces banques-là fonctionnent? Quand vous allez au Maroc, par exemple, vous trouvez qu'il y a la BCCI, la Banque Commerciale du Commerce Intérieur. C'est-à-dire, on regarde, on donne des crédits aux personnes qui ont ces aptitudes commerciales mais qui manque de moyens. Mais ici, les opérateurs économiques sont livrés à la merci des banques commerciales qui appliquent des taux qui ne leur permettent pas de pouvoir gagner, prospérer et même rentabiliser leurs activités. Donc l'État peut ouvrir des crédits à l'économie ou mettre en place une banque qui est là pour financer l'économie, notamment ceux qui sont dans les petits secteurs. Bon, au niveau des privés, il y a eu d'autres initiatives dans ce qu'on appelle les microcrédits. On a vu ce que Fink a été en train de faire. Ces institutions de microcrédits sont là pour arriver à, sont mises en place pour accompagner ceux qui font, qui interviennent au niveau du petit commerce. Mais comment l'État les accompagne? Quelles sont les structures que l'État met? Quels sont les montants que l'État? L'État peut même mettre les fonds à leur disposition à un taux d'intérêt assez faible et pour une période assez longue. Et mettre en place des structures d'accompagnement et des structures qui permettent que ces fonds soient bien gérés. Et la plupart, parfois, on leur exige des garanties qu'ils n'ont pas, notamment au niveau des banques commerciales. Mais ce qu'on conseille, il y a un dispositif en matière de finances qu'on appelle « on prend ton commerce, ça devient comme les gages fonds de commerce ». Tu veux faire une activité, on localise, qu'est-ce que tu veux acheter, c'est auprès de qui ? On te donne les moyens et on te dit « tout ce que tu as ici, c'est toi qui l'ai fait, mais ça reste la propriété de l'État jusqu'au moment où tu vas rembourser. Si tu n'es pas en mesure de rembourser, on récupère et privilégie les transactions au niveau bancaire. » Alors, c'est ce dispositif d'accompagnement, comment accorder les crédits, comment accompagner la personne qui a eu ces crédits et comment s'assurer que en 2 ans, 3 ans, 4 ans, il pourra rembourser et commencer à voler ses propres ailes, qui n'existent pas malheureusement dans ce pays. Les opérateurs économiques sont livrés à leur propre sort et parfois ils sont même assiégés par des taxes et des prélèvements de l'État et des tracasseries des services de l'État. Nous entendons tous quand on nous dit que ce n'est pas facile d'être un opérateur économique congolais parce que vous ne savez pas combien de taxes vont tomber sur vous, combien de services vont tomber sur vous. Parfois, on vous décourage pour aller de l'avant. Mais l'autre côté de l'accompagnement de l'État, il n'est pas trop visible. Il n'y a pas assez de mécanismes mis en place pour arriver à accompagner ceux-là qui peuvent se lancer dans les secteurs économiques à différentes échelles, à un niveau bas, à un niveau intermédiaire, comme à une échelle assez élevée.
Et si cet accompagnement ne suit pas, justement, est-ce que on peut craindre des pénuries ou une hausse des prix si jamais les expatriés se retiraient de ces secteurs?
Oui, non seulement ça, parce qu'ils prennent notre économie en otage. Regardez notre économie parce qu'on en parle. Quels sont les Congolais qui sont dans les secteurs bancaires? Avons-nous des Congolais qui sont propriétaires des banques commerciales? Regardez les secteurs bancaires congolais. Regardez les secteurs de la grande distribution, la plupart des supermarchés, combien appartiennent aux Congolais. Alors, ces gens, entre eux, ils se concertent. Ils prennent en otage des pans entiers des secteurs, des poules de l'économie d'une nation. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas se retirer, ils se concertent entre eux, ils mettent des prix qu'ils veulent, parce que vous n'avez pas d'alternative, parce qu'il n'y a pas de concurrence, ils se concertent. Et ensuite, c'est les Congolais qui en payent les lourds tributs. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes en train de voir. Donc, il est question de revoir notre politique économique et commerciale pour faire en sorte que de plus en plus de Congolais soient soutenus, accompagnés, qu'on limite même l'entrée aussi des étrangers dans certains secteurs. En économie, on parle de contingentement. Donc, on limite. On s'est dit, bon, jusqu'à tel niveau, c'est pour les étrangers. À partir de ça, c'est pour les nationaux.
Quel secteur, par exemple?
Et ça, il faut que l'État soit éveillé. Sinon, nous laissons toute notre économie entre les mains des expatriés. Et Dieu seul sait, demain, nous risquons d'être esclaves dans notre propre pays.
Et quel secteur, par exemple, pourrait être réservé aux nationaux en dehors de... Enfin, on parle de commerce en détail, petit commerce d'une manière générale. Et quels sont les secteurs qui peuvent, selon vous, être réservés qu'aux nationaux?
Bon, nous avons déjà levé l'option que notre économie est libéralisée. C'est-à-dire libéralisme économique, parce que nous sommes dans le cadre de la mondialisation de l'économie, globalisation financière. On accepte que les gens viennent venir. Mais ce qu'il faut faire, il faut que l'État puisse limiter. Il ne faut pas que l'État se dise « je laisse totalement les règles du marché faire la loi ». Quand nous parlons de l'État qui joue le rôle de régulation, la régulation suppose avoir la capacité d'arbitrer. La régulation suppose aussi avoir des garanties que ce secteur ici, l'État ne va pas perdre totalement le contrôle. C'est ainsi que on ne peut pas dire il y a tout un secteur qui est réservé seulement aux nationaux ou aux Congolais, mais dans chaque secteur, on doit veiller à ce que qu'il y ait quand même un nombre de Congolais qui soient présents. Ça va constituer comme un contrepoids. Et qui sont dans ces secteurs peuvent nous donner suffisamment d'informations. On doit arriver à les encourager. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire, on a dit que l'économie est libéralisée. Alors, on dit, c'est le sauf qui peut. C'est lui qui vient, il travaille. C'est lui qui soit étranger ou pas, qu'il s'installe. Et l'État n'est pas assez regardant pour regarder comment nous accompagnons nos nationaux pour qu'ils prennent aussi en charge une bonne partie de leur propre économie. Et c'est ça le plaidoyer que nous pouvons lancer aujourd'hui. Et ça n'empêche pas les libéralistes. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Parce que quand les étrangers arrivent, avant d'opérer, ils demandent des permis d'exploitation. Ils doivent avoir l'enregistrement. C'est à ce niveau-là qu'on doit regarder que dans ces secteurs, il n'y a que des étrangers. Comment on peut promouvoir les Congolais? Dans ces secteurs, on a accordé assez de permis ou enregistré beaucoup d'étrangers. Limitons maintenant cette fois-ci qu'on donne aux étrangers, et aux nationaux plutôt. Nous avons créé un dispositif, l'autorité de gestion de la sous-traitance dans les secteurs miniers qu'on est en train d'étendre partout. L'idée, c'était quoi? Nous parlons des chaînes de valeur. Mais ces chaînes de valeur-là signifient ça doit profiter aux entreprises congolaises. Mais ce qu'on constate, les Congolais n'ont pas de moyens. On crée sur papier une société avec des autochtones. Mais derrière, là, il y a un étranger qui est derrière parce que les Congolais n'ont pas de moyens.
Tout à fait.
Mais comment se font ces contrôles? Je crois que ce sont là les lignes de politique économique, les questions principales qui devraient concerner au plus haut point les gouvernements pour regarder comment avance notre économie. Mais apparemment, on est assez distrait. Et apparemment, peut-être, on se laisse soudoyer et on laisse les choses se dérouler sur les marchés sans que l'État ne puisse intervenir pour encadrer. Il n'y a pas assez de mesures d'encadrement et d'accompagnement de l'État, notamment en ce qui concerne les opérateurs économiques nationaux.
Je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent se joindre à nous, 085 42 11 547, 085 42 11 547. Nous avons des auditeurs en ligne. Jean-Luc nous appelle depuis Kasumbalesa. Bonjour.
Bonjour, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Merci. Et quelle est votre contribution à cette émission et quelles sont vos questions à notre invité?
Merci beaucoup, merci. Par rapport à le sujet du jour, j'interviens depuis Kasumbalesa pour vous dire, par rapport à l'économie de notre pays, la République populaire du Congo doit d'abord se mettre aux moyens nécessaires des entreprises. Par rapport à ce qu'aujourd'hui, si nous regardons dans notre pays, il n'y a pas assez. Nous sommes à peu près 15 millions d'habitants. Mais donc, quand nous regardons, il n'y a pas les entreprises qui peuvent nous engager. Cela doit nous donner le moyen possible. C'est pourquoi vous voyez le chef de l'État fait des démarches pour chercher des entreprises qui peut faire ce que notre économie est de l'avant. Et par rapport à cela, nous demanderons vraiment au gouvernement de nous tenir en appuyant la jeunesse aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, si vous participez dans des universités, vous trouverez des milliers d'étudiants à l'école d'humanité, vous trouverez des diplômés, mais à travers l'économie, par rapport à la recherche de notre chef autorité suprême, ça va un peu nous aider. C'est au moins ça par rapport à ma contribution.
Et vous avez des questions pour notre invité?
Oui. Nous demanderons, l'invité, nous devons lui poser la question de nous donner le moyen possible pour éviter le chômage. Quels sont les moyens à laquelle l'économie de notre pays peut changer, parce que c'est depuis notre pays l'indépendance, toujours la population du temps et d'aujourd'hui pleure et subsiste toujours pour le travail. Nous sommes nés et nos parents pleuraient toujours, et vous voyez au Congo c'est toujours l'article 15. Mais nous demanderons à l'invité, quels sont les moyens pour éviter toujours des articles 15, les taux du jour, pour vivre, il faut avoir des taux du jour. Quelles sont les mesures, quels sont les moyens possibles qui peuvent nous aider à ne plus encore vivre jour et jour, toujours dans les taux du jour, c'est ça un peu le marque comme ça.
Merci beaucoup Jean-Luc pour votre intervention depuis Kasumbalesa. Blaise Saïdi à Toubou et à Kisangani, bonjour. Est-ce que Blaise Saïdi est avec nous? Blaise Saïdi, vous êtes déjà en direct, hein? Vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Si votre micro n'est pas activé, veuillez l'activer, Blaise Saïdi.
Oui, allô?
Oui, Blaise Saïdi, bonjour.
Oui, merci. Bonjour, bonjour, Jocelyne. Bonjour à l'invité, Lepe Kamoya.
On vous écoute.
Avant de commencer, chère Jocelyne, oui, je dois profiter de l'occasion pour vous informer que ça fait plus de temps aujourd'hui, nous ne captons pas convenablement la radio Capi. À présent, je suis en train de suivre dans une autre application, Garden, pour suivre l'émission. Vous savez bien, la condition de la connexion Internet chez nous, ça pose assez de problèmes à République démocratique du Congo tout entier, chez nous.
Merci beaucoup.
C'est un problème sérieux. Donc, nous demanderons qu'il y ait au service technique de nous remettre quand même au droit, puisque donc ça nous manque, hein, ça nous manque vraiment.
Le service technique vous suit et on y travaille, Blaise Saïdi. Merci beaucoup. On peut suivre votre contribution à cette émission et vos questions à notre invité.
Merci. Chère Jocelyne, le gouvernement congolais a toujours de bonnes initiatives. Mais là où ça manque un peu, c'est le suivi. L'excellence Moukoko, le professeur, le ministre de l'économie, au regard de l'initiative prise, il doit faire quand même la part des choses avec les décisions de ses prédécesseurs, puisque ce n'est pas la première fois que cette mesure doit être prise, mais il n'y a pas toujours les suivis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord de chercher à créer une police appropriée pour les suivis? Il y avait baisse de dollars ici, mais les prix restaient toujours les mêmes au marché. Alors, c'est quelque chose que parfois les opérateurs économiques sabotent le gouvernement. Alors, c'est pas normal. Donc ici, je disais que la décision des ministres de l'économie sur le petit commerce vise à protéger les commerçants congolais et à organiser ce secteur. C'est une bonne initiative pour favoriser l'emploi local, mais elle doit être appliquée sans tracasserie ni injustice. Donc, à mon humble avis, le gouvernement doit aussi soutenir les petits commerçants par des aides et de meilleures conditions de travail. La première question, chère Jocelyne, quelles mesures seront prises contre la concurrence déloyale? La deuxième question, quelles mesures seront prises contre, permettez, comment le gouvernement compte-t-il lutter contre les tracasseries dans les commerces? Et pour citer pour cette série de questions, comment éviter les abus des agents sur les petits commerçants? Je me limite à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Blaise Saïdi à Toubou. Nous allons prendre un dernier intervenant pour ce lot des questions. Achille Kasongo nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Achille Kasongo.
Oui, bonjour Jocelyne, bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Oui, merci. Je voudrais, avant de parler, poser la question à votre invité.
Oui.
Parce que ça cadre quand même avec l'économie. Vous savez, notre économie est souvent dollarisée. Alors, j'aimerais savoir, parce que vous savez, avec tout ce qui s'est passé, les dollars qui prennent de l'ampleur, après, bon, les prix ne changent pas. Face à l'économie chinoise qui prend aussi de l'ampleur, est-ce que les pays africains ou encore le Congo et pas valoriser la monnaie chinoise pour les échanges commerciaux. Votre invité qui est économiste est vraiment placé, peut-être même dans l'avenir. Pour un chercheur, vous parlez de l'interdiction, je pense, de la vente des expatriés au prix de détail. Bon, je voudrais demander à l'invité, parce que vous savez, nous constatons que les Congolais ont un peu une mauvaise foi, ils exagèrent trop le prix, et cela ne les fait pas tout contents. Vous êtes à Lubumbashi, quand vous allez au marché Mosé, un produit qui peut s'acheter à 10 000, vous pouvez trouver ces produits-là et mettre ça à 60, voire même 100 000. Donc, ça nous inspire pas vraiment confiance. Même quand vous allez en Zambie, les Zambiens ont un peu de la bonne foi, c'est ça, c'est selon moi. Mais quand vous trouvez qu'il y a un Congolais, il constate qu'il y a un Congolais qui vient de Lubumbashi, il essaie d'exagérer quand même le prix. Bon, qu'est-ce que les quoi d'invités peuvent dire à ce niveau-là? Parce que bon, les expatriés ont au moins un prix abordable. Mais le frère congolais exagère quand même le prix. Merci.
Merci beaucoup Achille Kasongo depuis Lubumbashi. Je rappelle encore notre numéro de téléphone 085 42 11 547 pour ceux qui souhaitent participer aussi à cette émission. L'EMS Camonia, des réactions par rapport aux interventions de ses auditeurs.
Merci Madame Jocelyne. Je remercie aussi pour ces auditeurs d'Adio Capi qui ont soulevé un certain nombre de préoccupations. Bon, le premier, celui qui était à Kasumbala, ça, il demande comment on peut les aider pour lutter contre les chômages. Bon, effectivement, ça, c'est la politique de l'emploi. Bien sûr, ce n'est pas notre sujet de ce jour.
Tout à fait.
Peut-être, les petits commerces ou les commerces d'État ici, aujourd'hui, on veut les réglementer. C'est justement un moyen pour ceux-là qui ne peuvent pas trouver un emploi dans une entreprise ou dans une structure formelle, d'avoir une activité, j'en suis revenu, et devenir socialement et financièrement autonome ou indépendant. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, parce qu'il a évoqué la question, aujourd'hui parfois il y a une inadéquation entre les besoins en matière d'emploi et les qualifications. Et ça, quand on regarde dans les sud du pays, donc dans toute cette zone minière-là, les emplois sont là. Mais on commence à voir que même pour des petits emplois comme maçon, charpentier, plombier, c'est des Libanais, c'est des Chinois, c'est des Indiens qui sont en train de remplir ces sociétés-là.
Et encore un autre secteur envahi par des expatriés.
Voilà. Par des expatriés, alors on ne fait plus de place aux Congolais. Et pourtant, ce sont les Congolais qui devraient bénéficier de leurs investisseurs. Des efforts sont faits pour attirer des investisseurs étrangers, mais dans les engagements qu'ils ont avec l'État, il faudrait qu'on dise quel est le pourcentage de la main-d'œuvre locale, quels sont les emplois qui doivent être réservés aux nationaux. Parce que là, aujourd'hui, on constate qu'on a laissé une liberté totale, et dans ces entreprises-là, même des petits métiers qui devraient être occupés par les Congolais sont occupés par ces gens. Même des cleaners, même les gens qui font la cuisine. C'est vraiment inadmissible. Alors, ça, c'est des choses sur lesquelles l'État devra veiller, notamment à travers le ministère de l'Emploi, pour que les Congolais bénéficient des investissements qui se réalisent dans leur pays, qui est quand même un quota qui est réservé aux Congolais, qu'on dise que on ne doit pas prendre un Libanais pour venir fabriquer du pain au Congo. Mais ça, c'est même un simple boulanger, on doit l'importer. Non, là, ça devient trop compliqué. Je crois que ça, c'est des choses sur lesquelles on devra veiller aussi. Et ça fait partie de la politique nationale de l'emploi et la politique nationale pour arriver à protéger
l'emploi des Congolais. C'est pas notre sujet du jour, l'EMS Camonia, mais est-ce que c'est pas aussi, si on en parle, c'est pas aussi, peut-être parce qu'il y a un manque de sérieux, peu de compétences dans chaque...
Exactement. L'inadéquation des profils que nous présentons.
On nous importe même des gérants d'entreprises, hein, dans les supermarchés.
Exactement.
On voit que ce sont des expatriés qui sont là comme gérants. Est-ce que c'est pas parce que il manque aussi un peu de sérieux du côté de nos compatriotes?
Les Congolais.
Oui.
Et aussi la formation. Nous sommes restés un peu sur le niveau d'éducation que les Belges nous avaient laissé, qui est une formation générale. On n'a pas formé les spécialistes en fonction des besoins réels exprimés par notre économie. Alors là, ça pose des problèmes. Moi, j'avais voyagé en Europe en Belgique, j'ai trouvé invité dans une famille, je pose la question à un enfant, tu es où, tu fais quelles études? Il dit, non, non, moi, on m'a orienté pour gérer, être spécialiste dans les rayons de fleurs dans un supermarché. Mmh. Vous voyez déjà, à partir de la formation, la personne qui est formée, c'est pour aller travailler dans un supermarché, dans un rayon de fleurs. Mmh. Bon, ici, chez nous, c'est économie, droit, sciences sociales, voilà, c'est des métiers comme ça, mais là, quand on arrive sur terrain, qui sait gérer, quelle formation on a? Non, on a des connaissances qui sont une portée générale, mais on n'a pas de spécialistes dans des métiers spécifiques. Et ça, c'est un problème qui appelle aussi la réforme de notre système d'éducation.
Mmh. Et il y a aussi les préoccupations de Blaise Saïdi, adressées naturellement aux membres du gouvernement. Oui. Mais en tant qu'analyste, hein, comment pouvez-vous répondre à ces préoccupations? Comment on peut faire pour éviter les abus, comme dit Blaise Saïdi, des agents de l'État? Comment contrer la concurrence déloyale dans les secteurs de commerce?
Bon, d'abord, la meilleure façon de contrer la concurrence, c'est de créer la concurrence. Parce que dans une économie libérale, le prix est fixé par les conditions du marché. S'il y a peu d'opérateurs économiques qui vendent les mêmes produits, les mêmes services, à ce moment-là, ça pose un problème. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand vous créez plusieurs vendeurs des mêmes services, entre eux, ils se font concurrence et les prix baissent. Alors, là où il y a la concurrence déloyale, c'est ce qu'on a expliqué. Je me retrouve avec un Chinois qui est lui-même importateur, qui est lui-même grossiste, qui est lui-même demi-grossiste. Comment moi, je vais aller acheter dans les magasins de ces Chinois et me retrouver sur les marchés en train de vendre au détail avec les mêmes Chinois qui vendent les mêmes produits? Là, ça pose un problème. C'est comme si la Bralima qui produit la bière, elle-même, elle a les bars. Oui. Alors, si je dois aller dans les bars de la Bralima et moi j'ai mon bar à côté, et la Bralima ne vendra pas au même prix que moi. Là, ça fausse les règles de la concurrence. C'est ainsi que nous avons exigé que pour que ce décret soit vraiment fort, il faut qu'il soit accompagné par la structuration et le strict respect des segments d'exploitation. Que ceux qui sont en gros restent en gros, que ceux qui sont en détail restent en demi-gros et en détail. Et à ce moment-là, on dit les détails, c'est réservé aux Congolais. À ce moment-là, et on renforce le système de contrôle. Et quand on le fera, ça va éviter qu'on arrive à cette situation de concurrence déloyale. Et donc ça, c'est une fois de plus des mesures d'accompagnement, comme on dit, par rapport à ces décrets, pour qu'ils sortent de tous ces effets. Sinon, il va encore rester une lettre morte.
Achille Kasongo a parlé de la valorisation de certaines monnaies étrangères comme la monnaie chinoise, vu le volume d'échanges avec ce pays. Qu'est-ce que vous en dites?
Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de commerce international. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie, le système qui est dollarisé. Même à l'international, on voit aujourd'hui l'Iran, la Russie, les pays qu'on appelle comme BRICS, ils ne veulent pas que les transactions se réalisent en dollars, ils veulent utiliser les autres monnaies. Alors, parce que le dollar est considéré comme la monnaie de référence et utilisée dans plus de 70% des transactions à l'échelle mondiale. La question n'est pas aussi simple. Je crois qu'on a même vu au niveau du gouvernement de la Banque centrale, il avait fait un point de presse pour dire, on va diminuer maintenant la Banque centrale dans une année, elle-même va commencer à importer les dollars que les banques commerciales. Les gens avaient mal interprété, mais on a vu les retours où on a dit, non, non, je n'ai pas dit que je vais mettre fin au système des dollars, aux transactions en dollars. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation qui est, où on a une économie qui est fortement dollarisée au niveau mondial. Alors, si nous voulons réduire cette dépendance, c'est accroître la production intérieure. Si vous allez dans les pays comme l'Afrique du Sud, les gens ne s'intéressent pas tellement au dollar parce que les prix sont en rente. Et les prix restent presque les mêmes. Et les gens n'ont pas besoin de regarder le taux du jour avant d'aller acheter. Et quand vous arrivez au magasin, on ne vous dit pas ça coûte autant que le taux du jour et les prix changent. Si on vous dit que c'est 20 rentes, c'est 20 rentes. Si c'est ça, et les prix sont affichés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un niveau de production intérieure élevé, ce qui permet de diminuer cette influence extérieure du dollar. Alors, on ne doit pas dire diminuons l'influence du dollar en allant vers le yuan sud-africain ou l'euro. Non. on diminue l'influence des monnaies étrangères en accroissant notre propre production intérieure. C'est ce qui va renforcer même la valeur de notre propre monnaie. C'est ce qui va contribuer à une véritable stabilité de nos prix intérieurs. C'est pourquoi le plaidoyer a toujours été de voir comment diversifier l'économie, comment accroître la production intérieure et comment fixer les prix à monnaie nationale et faire en sorte que la monnaie nationale reste fixe par rapport à ses devises étrangères. À ce moment-là, ce problème-là qui est décrié sera résolu.
Nous allons prendre également les questions de Eric Kianga qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour maman, madame Jocelyne.
On vous écoute Eric Kianga, votre contribution à l'émission et vos questions.
Merci beaucoup pour la parole. Je suis monsieur Eric Kianga, je suis opérateur économique et syndicaliste de vendeurs dans le marché de Matadi-Kibala. Le problème abordé aujourd'hui, c'est vraiment très important et je suis tellement content que notre gouvernement ait songé à nous. C'est vraiment pénible ce qui se passe dans le manioc que il y a les Indo-Pakistanais, les étrangers qui s'arrangent eux-mêmes, même au niveau de la production. Donc dans des usines, quand il y a un étranger qui va là-bas et se connaît, il les vend à moins cher. Et quand il arrive sur le terrain, moi-même, je voulais juste partager mon expérience. Je suis dans la vente des emballages en plastique. Je suis allé en face de moi, il y a un Indo-Pakistanais qui vend aussi beaucoup de choses. Il y a aussi les emballages en plastique là-dedans. Il vend en détail. Mais je fais les calculs, ce qu'il met en détail. Par rapport même à ceux qui achètent à l'usine, là on part acheter, même on n'achète pas à l'usine, mais là on part acheter à l'usine. Donc le prix qu'il a mis en détail, c'est moins qu'à l'usine. Je suis entré là-bas, je lui ai dit non, comme vous vendez comme ça, vendez-moi alors les sacs. Il avait plein de sacs là-dedans, mais il dit non, on ne vend pas par sac, on va vendre seulement par pièce. J'ai dit, mais par pièce, comment? Moi aussi je vends par pièce. Vous avez rabaissé les prix, même là où on part acheter. Il se passe à ce prix. Il refuse et carrément personne ne m'achète. Tout le monde achète là-bas en détail. Donc, c'est très important que l'État mette, qu'est-ce que je veux dire, que l'État mette en place le mécanisme de suivi et de mise en pratique, mise en œuvre du décret qu'on a pris. C'est très important. Ça va beaucoup nous soulager. Vous allez voir, chez moi, c'est vide. Les gens sont pleins là-bas. Ils achètent en détail. Même si je pars acheter à l'usine, je ne mettrai pas ce prix-là parce que c'est moins cher que même à l'usine ici. Et on m'a expliqué que, oh non, ils se connaissent avec les gens de l'usine et achètent à moins cher et d'autres grossistes congolais et autres. Donc, il n'y a pas moyen de vendre. Donc, c'est vraiment pénible ce que nous subissons ici à Matadi-Kibala.
Merci beaucoup, Eric Kianga, pour votre témoignage. Nous allons prendre également un dernier auditeur, Eric Massouché, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, madame. Merci pour la parole.
Allez-y rapidement, parce qu'il nous reste
un petit souci à partager avec monsieur Lemse Kamoenia, qui est dans vos studios. Nous voyons dans d'autres pays où on voyage, vous avez au moins le commerce qui est réglementé. Il y a les fournisseurs, il y a les détaillants, et quand vous voulez acheter, vous pouvez acheter l'argent, vous achetez les marchandises, et après, on vient vous fournir les marchandises là où vous êtes. Et nous comprenons que c'est là, ils encouragent les détaillants à centraliser les ventes et les fournisseurs, ils vont chercher à fournir les détaillants et vous voyez que les nationaux aussi évoluent aussi et ça, c'est quelque chose de très bien. Moi, je pense que c'est l'organisation au niveau de l'économie qui pose problème. Alors, qu'est-ce qui nous manque, ma question, pour que cette organisation soit intégrée aussi chez nous, comme on les voit à l'étranger? Et de deux, il fallait que Mais j'ai suivi un économiste qui avait parlé des crédits en francs congolais. Et cela pouvait encourager et ceux qui sont dans la production agricole et ceux qui sont dans la construction, ils pouvaient s'endetter en francs congolais et faire avancer aussi l'utilisation de la monnaie nationale. Mmh. Alors, je pensais que M. Lems Kamane puisse nous éclairer dans tout ça.
Merci beaucoup, M. Eric depuis Lubumbashi. Lems Kamania, votre réaction d'abord à l'intervention d'Eric Kianga, qui a donné qui a partagé son témoignage.
Oui, merci. Je crois que ce témoignage fait partie de ce que j'ai évoqué tantôt. Mm. Lorsque vous mettez des étrangers dans les commerces, les petits commerces, les commerces de détail, ils risquent de s'approvisionner auprès de leurs compatriotes qui sont au niveau du secteur des gros.
De la production aussi.
Alors, ou de la production. Alors, entre eux, ils parlent en langue, ils leur font des facilités et ils se retrouvent sur le marché avec des prix qui défie toute concurrence. Et c'est pourquoi on dit laisser les étrangers rester à un niveau du secteur des gros ou du secteur de production et que dans les petits commerces et les détails, qu'on laisse que les nationaux. Tant que cette réglementation n'est pas appliquée, le cas qu'il a donné, on peut en avoir 1000 dans plusieurs secteurs. Beaucoup de gens sont en train de se plaindre, rester là. Cette complicité-là existe. Et les gens, ils arrivent là, ils se parlent entre eux. Parfois même, leurs compatriotes qui sont des producteurs ou des grossistes, ils leur donnent à crédit. Prenez, vendez, après vous venez me payer après. Facilité qu'ils ne peuvent pas accorder aux Congolais. Je crois que c'est ça l'application stricte de ce décret. S'il est appliqué, ça va permettre de corriger ces problèmes qui se passent de concurrence déloyale.
Lem Kamania, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre disponibilité pour Radio Okapi. Et c'est par ici que prend fin cette première partie d'Okapi Service. Il est 11h à Kinshasa, c'est le bulletin d'information.